C'est inquiétant parce que ça met en place, à mon avis, des réflexes qui pourraient être, on va dire, si l'on n'est pas dans le camp du bien, et je mets des guillemets, hein, camp du bien, eh ben ça pourrait se retourner contre nous.
Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
Salut tout le monde et bienvenue, c'est le retour des éclaireurs du numérique en 2021. La tradition veut que l'on souhaite une bonne année. Souhaitons donc une bonne année à Fabrice Pelboin. Salut Fabrice.
Salut.
Damien Douani, salut Damien.
Bonne année.
Bonne année. On y croit tellement, on a tous tellement conscience que cette année 2021 va être exceptionnellement géniale par rapport à celle qu'on a vécue.
Ah ben, c'est-à-dire qu'au bout de 6 jours, je pense qu'au bout de 6 jours déjà, si tu veux, 2021 a complètement cramé 2020 en faisant intervenir Jamiroquai au milieu du congrès américain. Je pense que là, on est parti dans un grand n'importe quoi.
Sans compter que l'année s'annonce comme une catastrophe en termes de cybersécurité, mais on y reviendra un jour, j'imagine, mais ça va être une année fantastique.
On va parler de la cancel culture, ce phénomène américain qui est tombé sur Trump via Twitter il y a quelques jours. Fallait-il censurer le compte de Twitter? Fallait-il dans la foulée d'ailleurs censurer 70 000 comptes QAnon sur la plateforme Twitter? C'est la question qu'on va se poser. Il y a une petite musique en ce moment qui est la musique Premier Amendement qui se développe partout. C'est un scandale, c'est honteux. Peut-être que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça. Qui lance le bal?
Bah déjà, Premier Amendement, ça n'a rien à voir avec les plateformes privées. Le Premier Amendement aux États-Unis, tout au moins, c'est le fait que c'est le freedom speech, c'est le fait que l'État garantisse le fait que tu aies le droit de l'ouvrir, sans être, on va dire, empêché de cela. Mais en gros, la première réflexion à avoir, c'est oui, mais sur les plateformes privées, on fait ce qu'on veut. Donc Facebook, Twitter te rappellent que tu es sur une plateforme privative. Le problème, c'est que comme on a l'habitude des réseaux sociaux, et c'est assez intéressant comme tropisme d'ailleurs à avoir, c'est qu'on est tellement habitué à utiliser ces réseaux que finalement, c'est devenu quasiment des réflexes et c'est devenu quasiment, je dirais, des services publics. Quand je dis des services publics, c'est quand on est un service comme Facebook qui représente plus de 2 milliards d'utilisateurs, est-ce que l'on est encore quelque part dans son usage, un outil qui pourrait être qualifié de privé? Je ne sais pas, je pense que oui, bien sûr, d'un point de vue, on va dire, statut, mais d'un point de vue usage, c'est devenu le nouvel annuaire. Donc, d'un seul coup, on est surpris de se rendre compte qu'on peut être sanctionné. Ce qui est très rigolo et cocasse, c'est que tout le monde hurle après le fait que ce soit Trump qui se soit fait sanctionner, alors que tout le monde hurlait sur le fait que Trump avait la possibilité de s'exprimer et dire des atrocités. Donc d'un seul coup, c'est barre à tribord, on part dans l'autre sens, mais pendant des années, Jean-Michel machin, il s'est fait censurer en postant 3 conneries sur Facebook, sur Twitter, et tout le monde s'en foutait. Donc c'est quand même extraordinaire, d'un seul coup, cette prise de conscience fabuleuse.
Une pensée pour Jean-Michel. Fabrice.
D'abord, il faudrait peut-être mettre un contexte. Il y a un contexte boursier, d'abord. Les GAFAM ont totalement dévissé en bourse à la chute de Trump. Et ça ressemble aussi à un acte d'allégeance au nouveau pouvoir qui arrive. Et puis, il y a une dimension hypocrisie. Alors, autant Twitter, on peut leur reconnaître le fait qu'ils ont toujours été du côté du clan démocrate, en ce qui concerne leurs dirigeants. Même s'ils ont énormément profité de l'effet Donald Trump. Mais après tout, le New York Times et le Washington Post aussi ont vu leur tirage exploser. C'est difficile de les accuser d'être pro-Trump. Mais alors, Facebook, c'est d'une hypocrisie sans borne. C'est parce que s'il y a un acteur des GAFAM qui était totalement pro-Trump, c'est bien Facebook. Donc, il y a une immense hypocrisie dans cette déplatformisation de Trump. Et puis, ça pose des vraies questions, parce que faut quand même remettre les choses en place. Ce sont des services mondiaux. Donc, l'allégorie du service public a ses limites, là aussi. Un service public mondial, ça serait une première. Ce sont effectivement des plateformes privées qui appliquent une forme de justice qui leur appartient et au bon gré de leur bonne volonté, parce que la violation des conditions générales d'utilisation de Facebook, c'est pas la première fois que Trump le fait. Il a dû le faire une bonne cinquantaine de fois. Enfin, j'ai pas compté, ça se compte peut-être en milliers, c'est astronomique. Et il leur a fallu attendre le fait qu'il soit à la fin de son mandat, dans les derniers jours, pour que les GAFAM bougent. Et puis par ailleurs, ça pose une vraie question qui n'a pas échappé à nos dirigeants européens et même au niveau mondial. c'est que demain, ça pourrait arriver à tout un tas d'autres dirigeants de la planète, et pas que à M. Michu, dont parlait Damien tout à l'heure. Typiquement, on se souvient quand même que Macron s'est fait allumer par le New York Times, puis par le Washington Post, et que demain, on n'est absolument pas à l'abri pour des trucs qui concernent typiquement un gap culturel comme le communautarisme, que ça arrive à des dirigeants européens. Donc ça pose une multitude de questions, mais avant tout, ça nous fait met face au fait qu'on a affaire à de la justice privée, qu'effectivement, elle s'applique de façon totalement obscure à une myriade de gens qui sont des nobody, parfois des semi-célébrités sur Facebook et sur Twitter, sans que ça dérange qui que ce soit, et qu'on a insidieusement, en France, comme dans tout un tas d'autres pays, accueilli la cancel culture, qui consiste, en guise de démocratie, à censurer la partie adverse. Et ça, c'est très inquiétant pour ce que ça dit de l'avenir de la démocratie.
Alors, n'oublions pas quand même que là, on était dans une situation quand même un petit peu inédite, c'est-à-dire qu'en général, on peut considérer que l'État doit intervenir pour dire telle ou telle personne est en dehors des clous et c'est la justice qui prend le relais derrière. Mais quand c'est l'État lui-même qui est défaillant, ce qui était le cas dans l'invasion du Capitole, quand c'est l'État lui-même qui fait un acte de rébellion démocratique, il faut bien qu'à un moment précis, il y ait des contre-pouvoirs qui se mettent en place. Donc ces contre-pouvoirs-là ne sont plus étatiques, ils peuvent être privés aussi. J'essaie de prêcher le faux et le vrai à la fois. Il y a quand même quelque chose qui se défend.
J'ai un ancien étudiant qui m'avait sorti cette expression qui m'a marqué à vie, coucou Pierre, qui était le corpo-state. On est face à l'émergence du corpo-state. On est face à des entités qui ne sont plus des entreprises, qui ne sont pas des États, qui sont des formes hybrides, qui ont un pouvoir politique qui est largement supérieur à la plupart des États du monde, qui peuvent renverser des États, hein, le printemps arabe, n'oublions pas que Facebook y est pour quelque chose, qui sont des acteurs politiques incontestables. Aujourd'hui, plus personne ne contesterait que Facebook ou Twitter sont de vrais acteurs politiques. Ils ont un poids super important sur l'opinion publique, qui forment l'opinion publique, qui la clivent, qui la polarisent, et qui aujourd'hui appliquent leur propre justice. Donc c'est assez inquiétant, ça nécessite une régulation, mais ça nécessite aussi certainement le fait que la justice s'adapte à ces technologies. La justice est restée au format papier et au CERFA, notamment pour ce qui est de faire des injonctions en justice auprès de Twitter. Il y a moyen d'accélérer tout ça, de rendre ça beaucoup plus efficace, avec un minimum d'investissement, et pas si phénoménal que ça. Il faut que nos démocraties s'adaptent, sinon elles vont clairement se faire bouffer là-dessus. On est dans la dernière ligne droite de la bataille entre ces corpo-states et ces démocraties.
Oui, Fabrice, je suis d'accord. Quand je parlais tout à l'heure de service public, c'était pour aller dans le sens que dit Fabrice, c'est-à-dire autrement dit, des sociétés qui finalement ont atteint des volumes qui sont comparables à des États, peut-être en tant que d'utilisateur, je pense à Facebook avec ses milliards d'utilisateurs, ou bien en termes d'impact social. Bien que Twitter, ce soit des centaines de millions d'utilisateurs seulement, si je puis dire, en termes d'impact social, c'est énorme. Alors bien sûr, après c'est une bulle, hein, faut pas se leurrer, mais je lisais l'autre jour un article de Samuel Laurent, qui lance un livre d'ailleurs, sur Twitter, la démocratie. Et justement, il souligne le fait que finalement, Twitter, par exemple, c'est du crack pour les politiques et les journalistes. Parce qu'en fait, aussi bien pour les politiques, c'est devenu le nouvel AFP. En gros, on tweet alors qu'avant, on envoyait un communiqué de presse. Et puis, les journalistes sont à l'affût de capter la moindre petite once d'informations et de réactions de la part des politiques par rapport à certaines choses. Donc, ce qui est très clair, c'est que Trump a magnifiquement utilisé ça pour sa campagne. Et quelque part, il est né, avec des guillemets, né sur Twitter. Je parle le Trump politique est né sur Twitter.
Ah, complètement.
Et très clairement, les journalistes, les médias en général, en ont profité. Et Twitter en a profité, tout comme Facebook. Et d'ailleurs, effectivement, comme tu le soulignais, Fabrice, autant on ne peut pas, on va dire, soupçonner Twitter et Jack Dorsey d'être des fans de Trump, très clairement. Autant, eux, comme Facebook, ont attendu la dernière limite pour le censurer, parce que quelque part, on va être honnête, hein, ça a amené du business, ça a amené de la visibilité, c'était un peu une poule aux œufs d'or, tout le monde se tournait vers Twitter, par exemple, pour savoir ce qu'allait dire Trump. Donc, et les journalistes attendaient ça aussi. Donc tout le monde gueule aujourd'hui après cette censure de la démocratie, mais franchement, tout le monde y a trouvé son compte.
Facebook ou Twitter, sont-ils ou pas des médias ? C'est quand même une discussion qui mérite d'être faite, parce que pour le Trump qui était sur Twitter et sur Facebook, c'était clairement ses médias, sa façon de s'exprimer et de passer son message. Il s'agit, pour être un média, d'agréger des sources d'informations, il s'agit de hiérarchiser des sources d'informations, ce que font Twitter et Facebook, qui hiérarchisent, non pas manuellement, mais via des algorithmes, qui agrègent des sources d'informations. Et il s'agit ensuite d'assumer ce qu'on publie, ce que fait très bien Facebook, puisqu'ils mettent de la pub absolument partout et qu'ils vendent toutes les informations, donc ils assument très bien les pires atrocités. On est quand même dans quelque chose qui est proche d'un média. Et un média a le droit de censurer quelque chose et de couper quelque chose à l'intérieur des contenus s'il considère que ça, c'est plus du tout dans la ligne possible.
Les médias censurent d'une part avec des êtres humains qui prennent des décisions et donc qui peuvent les assumer, pas avec des algorithmes à qui on peut difficilement demander d'assumer quoi que ce soit.
T'as raison. Non mais l'histoire du média versus nous ne sommes que des passe-plats, c'est la règle sur laquelle s'est positionné toutes les plateformes sociales depuis leur création aux alentours des années 2004-2005, avec la loi en France LCEN et aux États-Unis l'article 230, qui dit en gros, ce sont des hébergeurs. Donc, autrement, ils se positionnent comme hébergeurs. Donc, s'ils sont hébergeurs, en gros, ils n'ont pas droit de regard sur le contenu, ce ne sont que des passe-plats, et puis basta. Le problème, c'est qu'au fil du temps, ce sont devenus d'abord des outils qui sont équipés d'algorithmes pour hiérarchiser l'information, pour dans un premier temps la trier et dans un deuxième temps la publiciser. Et d'autre part, donc quelque part déjà il y a un biais qui s'installe. Et on a même, prenons un exemple très simple, l'exemple de LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui a une rédaction physique de journaliste qui fait de la curation d'informations. Donc aujourd'hui, très clairement, ces plateformes ne sont plus des hébergeurs où l'argument qui pouvait tenir au début à leur lancement ne tient mais plus du tout, du tout, du tout. Ce sont des médias.
Attends, pour LinkedIn, oui. Pour LinkedIn, oui. Pour Twitter et pour Facebook, il n'y a pas une rédaction humaine. Il y a des algorithmes.
Ce qui revient au même, ça veut dire qu'il y a une sélection qui est faite.
Non, ça revient pas au même, ça revient pas au même. Tu peux pas demander à un algorithme de deep learning d'assumer le même statut juridique qu'une rédaction avec des êtres humains. C'est quelque chose d'autre. Moi, j'ai toujours considéré que l'algorithme du média, c'est vraiment une fainéantise intellectuelle qui consiste à ne pas vouloir aborder la complexité. La réalité, c'est que c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins responsables. Ça veut dire que c'est autre chose et qu'il faut l'aborder comme autre chose.
Alors prenons ça à l'aune de l'histoire. Est-ce qu'en 1940, sous le régime de Vichy et l'occupation allemande, on aurait pu, lorsqu'on était quelqu'un qui était dans la résistance, faire des médias qui coupaient des informations voilà, est-ce qu'à un moment précis, quand on se retrouve face à des situations qui sont de toute évidence antidémocratiques par essence, il n'y a pas une responsabilité de chacun et de chaque organisation, aussi privée soit-elle.
Je ne suis pas convaincu que la métaphore de 40 soit la bonne, parce que très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les médias ont été pris en main par les forces de collaboration et que les résistants, eux, ont utilisé des médias alternatifs qui n'étaient pas censurables. À l'époque, c'était la radio. Aujourd'hui, c'est des groupes Telegram, probablement tout un tas d'autres choses qu'on va découvrir, des groupes WhatsApp et compagnie, et ça va vraisemblablement nous péter à la gueule assez rapidement, parce que ça ne va pas attendre des décennies avant de réexploser. Rappelons quand même qu'Internet n'est pas du tout pensé pour être censuré.
Oui, je suis d'accord avec Fabrice sur l'aspect de la métaphore. Maintenant, ce que ça pointe du doigt, c'est le fait que, alors bien sûr, il y a certainement des groupes. D'abord, premier élément, c'est qu'il y a des groupes qui vont se constituer, qui vont certainement s'enfoncer dans certaines parties du web pour en discuter tranquillement. Alors, à fois, on peut aussi s'émouvoir du fait que, par exemple, Google et Apple censurent ou déréférencent l'application Parler. Qui était le WhatsApp, on va dire, de l'extrême droite américaine. Après tout, j'ai envie de dire, mais et pourquoi est-ce qu'on déréférence cette application s'ils ont envie de se parler entre eux ? Donc, moi, ce genre de truc-là me gêne aux entournures. J'ai un souci, vraiment, avec ça. Parce que je ne suis absolument pas trop pro-Trump ni pour ces personnes-là, mais quelque part, t'as envie de dire, bon, ben, s'ils ont envie de s'exprimer entre eux et qu'ils trouvent que cette application-là est leur plateforme de discussion, why not ? Donc, j'ai un vrai souci avec ça. Bien sûr, ces réactions, elles sont consécutives au fait que le Congrès américain ait été envahi. Et c'est pas un détail, hein, quand même, ce qui s'est passé. Donc, je peux comprendre la réaction, mais à la fois, c'est inquiétant parce que ça met en place, à mon avis, des réflexes qui pourraient être, on va dire, si l'on n'est pas dans le camp du bien, et je mets des guillemets, hein, camp du bien, et ben ça pourrait se retourner contre nous. Et ça crée des précédents, et ça crée des vrais précédents.
Ah, mais ça se retournera contre nous. C'est indéniable, ça se retournera contre nous. Nous, au sens le plus large possible, notamment le camp du bien, parce que le fameux camp du bien, aujourd'hui, d'un point de vue strictement démocratique, ils ne représentent pas la majorité. Donc, tôt ou tard, on risque de voir un basculement qui fera qu'ils ne seront plus dans le camp du bien. Ils seront dans le camp de ceux qui seront légitimement dans la poursuite de ce grand mouvement de cancellation de tout ce qui dérange, qui seront cancellés. Et à partir de là, ça va être catastrophique.
Oui, parce que là, on parle de la censure de Trump en tant que président américain qui, tout d'un coup, va trop loin. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 70 000 comptes QAnon, donc une pensée qui a été censurée d'une certaine façon sur Twitter. Et demain...
Ouais, on ne sait pas très bien ce qui est considéré comme QAnon et en vertu de quoi tel compte est considéré comme QAnon. Encore une fois, ce n'est pas un acte de justice.
Mais si on fait une censure sur 70 000 QAnon, on peut demain censurer tous les suprémacistes blancs, tous les platistes, tous les suprémacistes noirs, tous les tenants de la théorie de Roswell. Enfin voilà, on peut supprimer absolument toute pensée qui ne soit pas dans le cadre. Et là, c'est vraiment un vrai problème.
La question jusqu'à présent pour savoir si on censurait ou si on fermait ou pas, c'était la loi. Tu es pédophile, tu t'exprimes là-dessus, tu es raciste et tu l'exprimes de manière très claire, tu es sous le coup de la loi et donc par conséquent, on peut, on va dire légitimement, si on peut dire, te couper le sifflet, c'est faisable. Là, j'ai la sensation d'une sorte d'arbitraire ou de quelque chose d'un peu bizarre qui effectivement fait que, imaginez, tu parlais tout à l'heure des années 40, et pourquoi pas l'apartheid en Afrique du Sud, et le fait de se dire qu'on pourrait partir, qu'on pourrait censurer Black Lives Matter. Tiens, parce que ce n'est pas dans l'air du temps et ce n'est pas dans la doctrine officielle. Imaginons ça demain. Donc il y a un vrai souci par rapport à ça. Alors je peux comprendre l'émotion que provoque effectivement la fermeture du truc de Trump, très bien, je dis à nouveau, je répète, elle est assez ironique d'ailleurs, je trouve, mais très clairement, oui, ça pose des questions sur le rôle de ces plateformes-là, et ça pose aussi une autre question qui est notre capacité à être en addiction avec ces plateformes-là. Et qui nous pose un autre problème qu'on a d'ailleurs plein de fois traité dans ce podcast.
Rappelons que ces plateformes ont déjà décidé depuis 15 ans de censurer tout ce qui ressemble à un saint, ce qui n'est pas du tout un problème dans notre culture européenne, et qu'on vit sous des plateformes qui considèrent qu'un saint est beaucoup plus grave qu'un appel au meurtre ou même au génocide.
Oui, mais ça, c'est le cultural gap entre l'Europe et les États-Unis. Hein. C'est pas nouveau.
On est déjà en train de vivre en temps réel, en fait, un système de censure idéologique qui passe par déjà une censure culturelle.
Et puis rappelons aussi qu'il y a un phénomène de foule qui fait que si on se coordonne bien avec suffisamment de comptes, on peut canceller un compte juste en le dénonçant en masse. Et ça, c'est la vie courante de Twitter et de Facebook.
Vous pouvez réagir, vous aussi. Il y a des commentaires partout où vous trouverez ce podcast. Vous pouvez nous envoyer des petits messages et vous abonner surtout à ce podcast pour avoir votre dose quotidienne ou hebdomadaire, en l'occurrence, de mauvaise foi notamment, de prospective et décryptage. C'est ce qu'on vient de faire.
Mais juste pour finir là-dessus, une petite chose. Là, je suis en train de binger une série que vous connaissez certainement et je suis très en retard dessus, je le dis, mais à culpa, qui est La Servante Écarlate. Et franchement... et c'est en rapport bien sûr avec tout ce qu'on vient de se raconter, quand vous voyez dans la série comment le monde a basculé justement vis-à-vis de ces questions de censure, etc., sachant que la série part sur le fait qu'il y a eu une attaque du Congrès américain et de la Maison Blanche, etc., pour une prise en main par des, on va dire, des fous de Dieu, ben, ça fait vraiment réfléchir. Et j'ai vraiment réfléchi aujourd'hui en préparant ce podcast, avec ça en fond. Les choses peuvent basculer assez vite, en fait.
Salut à vous deux et bonne semaine.
À la semaine prochaine.
Salut!